À l'occasion du 40e anniversaire du coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili, donc le 11 septembre 2013, se tenait à Nantes un rassemblement des Chiliens réfugiés en France, descendants de victimes du coup d'État et d'amis français du peuple chilien. Michel les avait rencontrés et en avait diffusé un magazine à cette occasion sur l'antenne d'Alternante. Nous allons maintenant vous en rediffuser de larges extraits.
Vous étiez où il y a 40 ans ?
Il y a 40 ans, je ne peux pas dire très exactement à quel endroit je me trouvais précisément.
Loïc Le Gall.
Ce dont je me souviens, c'est qu'un prêtre du quartier de Chantenelle à Croix-Bonneau m'avait fait savoir que des réfugiés chiliens venaient d'arriver à Nantes, qu'ils étaient un petit peu perdus et qu'il fallait s'occuper d'eux.
Moi, j'ai un souvenir parfait du 11 septembre.
Ah.
À Nantes, parfait. Je travaillais à la poste, mais comme j'étais à l'extrême gauche, on mangeait aux terres.
François Prénaud.
Et on avait le matin, déjà, on avait appris en se levant que ça chauffait, qu'il y avait un climat, qu'il y avait des inquiétudes, qu'il y avait des mouvements militaires et tout. Quand on est arrivé à 11h30, on a appris que la Moneda était bombardée. Il y avait déjà, il y avait un transistor, c'était Yves Touchefeu qui avait le transistor. Il y avait 90 étudiants qui étaient présents. Et il y a eu des prises de parole dans les salles de resto, dans un silence glacial. Dans un silence ému, bon, on peut difficilement l'imaginer aujourd'hui. Et dès le soir, il y a eu la décision de faire une manifestation le mercredi. Donc il y a eu une manifestation le mercredi vers 17h, où il y avait 400-500 personnes. La gauche plus institutionnelle, syndicale et politique, s'est retrouvée également le soir. Et il y a eu une manifestation très importante le samedi. Il y avait 5-6 000 personnes. Donc c'était le premier temps de la solidarité. Après, donc, il y a eu le lancement des comités de soutien avec le Chili. En octobre, il y a eu un meeting à Paulfort qui était assez émouvant parce que c'était un journaliste français qui est décédé cette année, qui s'appelle Jean-Pierre Beauvais, qui était venu, qui est arrivé du Chili. Et un couple qui chantait de Rouen, qui s'appelait Annie Nobel et Philippe Richeux, qui avait fait, je pense, un seul tube, c'était Un jour nous irons à Valparaiso, qui était venu en moto avec leur guitare. Il faisait un froid de canard, ils étaient arrivés à 21h alors qu'ils devaient chanter à 20h30. Mais Paulfort était blindé complètement, quoi.
Un jour à Valparaiso,
feras-tu la route avec moi?
La mer est mauvaise, on ne nous attend pas.
Il est mort, le cavallero.
Ils viennent avec leurs bottes, ils ont la loi des fusils.
Les chenilles des tanks rampent vers Santiago. Ce matin, le ciel est beau.
Un jour à Valparaiso, feras-tu la route avec moi?
La mer est mauvaise, on ne nous attend pas.
Il est mort, le cavallero.
Il tue les ouvriers, il massacre les partisans.
Ils arrêtent, ils frappent des milliers de gens. À midi, tout est fini.
Et après, le deuxième temps de la solidarité, c'est quand les Chiliens sont arrivés. Les Chiliens, les réfugiés chiliens sont arrivés, alors je ne sais plus, je crois que c'est le début de l'année, 1974. Et la solidarité, elle n'est plus devenue purement politique, elle est devenue physique, parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Et moi, j'habitais à Malakoff à l'époque, et c'est vrai que je me souviens quand Omar, Malouenda et Olga sont arrivés, il y a eu une réunion pour les accueillir au centre social, et il y avait 100 personnes. Et c'était pour accueillir les Chiliens. Bon, le directeur de l'école ouverte, Hubert Lemay, donc avait été les voir en disant « c'est une école Freinet, ça sera drôlement bien pour les enfants et tout ». Et donc après, tous les latino-américains, dont Alberto, le copain qui chante, là, et Andrés, son fils, Andrés est allé à l'école ouverte parce que vraiment, il y avait la volonté de l'équipe d'année scolaire de les accueillir, de leur faire leur place. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les enfants, ils ont eu des trajectoires scolaires très très bien. Hein. Même la fille d'Olga et Omar, dont Hubert Lemay disait qu'elle avait des oiseaux dans la tête, eh bien, elle est devenue une scientifique de haut vol.
Il y a 3 ou 4 jours, la télévision chilienne a commencé à montrer des différents documentaires et vidéos où on montrait des choses qu'on n'avait jamais vues sur les premiers jours et semaines du coup militaire. J'ai reçu des dizaines de mails de ma famille et de mes compagnons où me racontaient qu'ils n'ont jamais pensé que l'horreur avait arrivé jusqu'à là. Juste pour donner un exemple, on a découvert que dans un hôpital public au centre de Santiago, on trouvait des caisses de gaz toxiques que la dictature avait achetées au Brésil. Avec ces gaz toxiques, ils pouvaient, les premiers jours après le coup militaire, ils pouvaient éliminer la moitié de la population de Santiago d'un coup.
Cuando
C'est un moment très...
Andrea Wassa et Camila Sawes.
Dur, mais fort parce que... Et ça devient au Chili une espèce de... Les gens ils commencent à comprendre, même pour nous, qu'on est des enfants de la dictature, qu'on a vécu la dictature avec notre parent. On ne connaissait pas bien l'histoire finalement. On s'est rendu compte maintenant, c'est mon impression, là qui commence à sortir beaucoup d'informations, des films, des documentaires, que c'était vraiment horrible, que c'était vraiment terrible. Et on a une dette. On a une dette pour que notre peuple, pour l'histoire, peut continuer. Ils ne sont pas jugés, les gens. Les militaires, ils sont à la rue, ils peuvent travailler. Il y a beaucoup de gens qui sont abîmés, et c'est de génération à génération. C'est les enfants, les petites-filles, les petits-enfants. Du coup, je suis triste, mais à la fois, je suis contente parce que je sens qu'il y a une espèce de comment se dit, c'est des ouvre les yeux, je ne sais pas comment dire, à ce moment-là.
Je ne sais pas si vous êtes représentative de cette jeunesse.
Ils sont un peu plus vieilles, en fait. C'est les plus jeunes qui sont en train de faire tout un mouvement, et c'est un moment très fort. Nous sommes directement de la génération de la dictature. Et moi, je suis née en France parce que mon père il a pu s'enfuir en 1974. Camila aussi, il est né.
C'est mon grand-père, il était ambassadeur de Salvador Allende. Il était ambassadeur de Chili à Budapest. Il était ministre de la Santé aussi de Salvador Allende au Chili. Voilà, du coup. Mais nous, on a eu la chance quand même, parce que j'ai des copains, des copines qui sont enfants des parents torturés, prisonniers politiques. Et nous, on a eu la chance de que nos parents, ils pouvaient partir, en fait. Mais
nous, notre génération, c'est une génération qui s'est beaucoup. Il a eu beaucoup de silence, parce qu'il a eu encore beaucoup de peur et de répression. Il n'y en a pas vraiment pu vivre. Le qu'ils ont vu les parents et on n'a pas pu comprendre vraiment, on a toujours compris entre lignes, on n'a jamais vraiment eu des conversations, pas tout le monde, mais c'était très très caché, oui, très, c'était des blessures qui sont très ouvertes. Donc nous avons vécu la transition entre parenthèses à la démocratie et la répression quand on était petit. On a été à les manifs, on a eu encore très peur de flics. Il y en a une peur qui reste dans la mémoire
Et aujourd'hui aussi?
Oui, aujourd'hui, oui. Ouais.
Mais ici, en France ou au Chili?
Partout, ouais, partout. Et même les nouvelles générations au Chili sont très engagées parce que c'est important, je pense. Et ça, ça me rend un peu, ça me revient un peu, comment dire, fière aussi. Parce que, mais c'est pas assez. Il faut juger, il y a beaucoup de dettes avec le Chili.
Quoi dire encore aujourd'hui, ceux qui luttent sont les étudiants, c'est les jeunes. Aujourd'hui, ceux qui sont depuis 300 à se battre pour avoir une éducation gratuite et de qualité sont les étudiants, sont les profs et sont aussi les parents des étudiants. Avec des répressions terribles. Jusqu'à aujourd'hui, la répression au Chili contre les étudiants est très très forte. Il y a 3 jours, il y a eu la dernière manifestation.
Nous souhaitions vous rencontrer pour, peut-être tout simplement pour se remémorer de ces moments tragiques que fut le 11 septembre. Tragique pour ce qui signifie pour les peuples chiliens, tragique pour l'espoir qui avait été mis par les peuples du monde sur l'expérience chilienne, tragique pour la désintégration d'une société, tragique pour les conséquences que vous connaissez tous, celles de l'imposition d'un système dont le Chili fut le laboratoire.
Pour moi, c'est une journée fondamentale, en fait. C'est...
Rosa Maraboli.
On a risqué, nous, on a pris l'initiative de se retrouver ce soir. On était 3. Et ce qui nous inquiétait, c'est qu'à 40 ans, il y ait une telle démobilisation qu'il n'y ait pas eu une organisation véritable, dont nos responsabilités, pour un événement aussi important. Aussi important par la douleur d'un peuple, aussi important par les conséquences, que ce sont des conséquences internationales. Le Chili fut un laboratoire dans lequel les nouveaux modèles, celui qu'on appelle l'ultralibéralisme, et celui qui va nous amener à la mondialisation, donc à l'effacement des États, à les règnes de la finance dans le monde de l'économie, à la paupérisation des peuples entiers et à l'enrichissement des catégories qui sont ailleurs, qui sont dans les stratosphères du monde. Et important pour tout cela, en dehors de la douleur. Je crois que ce mouvement du 11 septembre, cet acte du 11 septembre, il prend 40 ans plus tard une importance extrême et l'expérience chilienne avec l'effondrement de ce qui a été et une histoire sociale dont on attendait et le monde attendait et quand même quelque chose de fondamental pour pouvoir continuer à penser le monde. J'étais l'année dernière au Chili, j'ai été par la première fois depuis 300 ans au Chili de façon régulière. Bon, j'avais été expulsé, donc mon retour a été long et difficile. Et on se retrouve avec un pays dans lequel il y a eu le réformatage d'une société. Et c'est aujourd'hui les étudiants qui émergent comme une forme de contestation parce qu'ils apprennent maintenant qu'il fut une époque où l'éducation était libre, elle était gratuite, qu'il fut une époque où les citoyens avaient l'accès à la santé, à l'éducation, qu'il fut une époque où on pouvait accéder à l'université sans en être pourtant des classes privilégiées. Et moi, je pense qu'il y a un processus qui a été long de démobilisation, mais aussi d'humiliation des peuples. J'ai pensé tout à l'heure, en regardant la rue Jean-Jacques, de ces manifestations extraordinaires pour les retraites en France. Et je pense que peut-être mon histoire personnelle est trop courte pour dire ce que je veux dire, mais je crois que ce fut un des moments d'humiliation du peuple français extraordinaire. Une énorme humiliation entre 1 million et 3 millions d'individus dans la rue, des travailleurs, qui furent éclaircés par l'arrogance d'un gouvernement. et qu'une partie de cette démobilisation à laquelle on assiste est liée à, justement à cette arrogance qui s'est imposée au-delà des peuples. Reconstruire la démocratie, c'est une tâche de tous les jours. Continuer à se battre pour la démocratie, c'est une obligation quotidienne. Et je pense que là, nous sommes dans un moment crucial dans lequel nous avons été gagnés par le désespoir, mais les limites que nous sommes en train d'atteindre dans la dépossession pour les travailleurs, pour les peuples, peut-être va être aussi le moteur pour un réveil. Peut-être je ne serai pas là, parce que dans cet exil, j'ai passé les 70 ans, donc maintenant je suis dans le déclin. Mais j'espère que les jeunes, ces jeunes Chiliens qui sortent aujourd'hui dans la rue, sont un exemple de qu'on peut renaître. Et moi, je pense qu'on doit renaître. Les dernières paroles d'Agende, c'était ça. Il y aura un jour où les alamés dans les avenues se rempliront des hommes qui luttent. Et qui luttent pour une liberté. Pour une liberté politique, pour une liberté sociale, pour la création d'un autre monde.
Oulé chante, oulé chante, oulé chante, kude yalo, kude yalo, kalvelikan. Oulé chante, oulé chante, kude yalo, kalvelikan.
C'est très, très émouvant voir les gens arriver.
Ariel Aliega.
On est à peu près, je ne sais pas, à 50. C'est des gens qui, dans les années 70-80, ont effectivement beaucoup travaillé pour la solidarité avec notre peuple. Que leur solidarité, sans qu'eux les savaient dans ces moments, a sauvé beaucoup de vies. C'était, comme je dis, très émouvant. Je crois que et le message de ces périodes, le message politique de Salvador Allende et du peuple chilien avec ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde actuel, c'est un message d'une actualité. Vraiment, qui fait penser, quoi.
Comment, quand on est forcé à quitter le pays, on choisit une destination?
Moi, tu vois, je suis arrivé en Allemagne. J'avais 19 ans. Je venais d'avoir mon inscription en fac à Concepción. J'étais assez malade. Et c'était un pasteur allemand qui a trouvé quelqu'un de ma famille et qui a su de mon histoire. Et c'est lui qui s'est occupé de m'aider à sortir du pays. C'est pour ça que je suis arrivé dans l'hiver de 76 à Stuttgart avec 1,20 m de neige où je ne connaissais personne. Et pas un mot d'allemand, naturellement.
Là, tu débarques Königstrasse, à Stuttgart.
Non, ça c'est la rue centrale. Non, non. Non, mais. Et là, il y avait un comité d'accueil où il y avait quelques Chiliens et des Allemands. À, je ne sais pas, 23 heures de la nuit, quelque chose comme le 22 décembre 1976.
Arriba quemando el sol.
il y a 40 ans, l'accueil de la population française par rapport à l'expérience du Chili fut d'une solidarité et d'un réveil énorme. Mais nous sommes aussi au moment où les peuples chiliens, il signifiait un espoir pour le reste du monde. Le monde avait les yeux tournés vers l'espoir, vers le Chili. Les programmes communs, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de ce qui avait été l'expérience chilienne pour amener un jeune de pouvoir. Depuis, il y a une expression française qui dit que l'eau est passée sous les ponts. Et je pense que les vertiges de la mondialisation, cette illusion qu'il y a eu à un moment donné, quand je pense au traité de Maastricht, hein, où une grande partie des Français, j'étais entre ceux qui ont été toujours non pour les traités tels qu'ils nous étaient proposés pour l'Union européenne, mais une grande partie de la population française pensait à l'ouverture des frontières. Et il y avait quelque chose, une transformation radicale des générations, probablement dans une génération de la jouissance immédiate, un peu comme si on allait changer le monde dans une autre question que celle qui avait été la promesse politique. Peut-être de la déception, mais peut-être aussi l'importance fondamentale qu'il y a en tout ça, le développement du capital, le renoncement des États. Et quand je dis le renoncement des États, ça me fait penser à la perte de souveraineté. Aujourd'hui, lorsque la décision de que les budgets de la société française, de l'État français, avant de qu'il soit approuvé par les organismes français, par l'État français, doivent passer devant la Commission européenne, mais c'est une perte de la souveraineté qui est passé dans un état de démobilisation impressionnant. Donc je ne pense pas qu'il y ait un affaiblissement politiquement parlant des hommes, mais on a vécu quelques années de dépolitisation. Et la politique, avec tout ce qu'elle peut comporter de contradictoire, les hommes qui perdent la capacité à penser politiquement, ils ne peuvent que se démobiliser.
Merci.
Merci à vous.
Qu'est-ce qui fait qu'on est moins accueillant aujourd'hui?
C'est la crise sociale. Il y a deux choses. C'est qu'à la fois, il y avait un espoir. Ce qui se passait au Chili entrait en résonance avec l'espoir qu'il y avait en France, c'est-à-dire d'une union de la gauche qui changerait la vie. Le Chili l'interrogeait parce qu'il y avait eu une victoire électorale, il y avait eu un mouvement social. Et donc, vraiment, personne ne connaissait vraiment le Chili avant 70. Hein. On l'a connu quand Allende a gagné, puis surtout après, quand le mouvement s'est mis en place. Donc ça, c'était ça qui mettait l'intérêt. Après, c'est vrai que cet espoir d'un changement, il faisait que ceux qui avaient travaillé à changement et qui avaient perdu, on devait les accueillir. Et c'était quelque chose de très large, quoi. Hein, c'était les Chiliens. Les gens disaient, c'est les Chiliens de Malakoff. Les enfants, ils étaient en classe avec ma fille. Bon, ils étaient vraiment accueillis par tous les profs, par tous les. Bon, ils n'avaient pas assez de jours de repos pour être invités, quoi. Mais c'est l'espoir qui a été porté.
Ce reportage commémorant le coup d'État militaire du 11 septembre 1973 au Chili a été enregistré le 11 septembre 2013 à Nantes. Merci aux témoins et aux participants.
Moi, je me rappelle très bien le jour du coup d'État.
Christian Bernet.
Je l'ai appris en arrivant en rue au Tertre, où il y avait, donc je pense que c'était les gens de la Ligue ou de la lutte ouvrière qui avaient mis des panneaux coup d'État au Chili, etc. Ça me rappelle très bien du jour. Et donc, on suivait ça d'assez près, quoi. Et je me rappelle que j'avais une réunion de l'UEC, parce qu'à l'époque, c'était l'UEC. Avec le frère de Jeannine Trouillard. Et il y a eu des élections avant au Chili au mois d'août. Et aux législatives, la gauche progressait encore, contrairement à ce qu'espéraient la droite et les Américains, quoi. Et donc moi j'ai dit tout content, ils progressent, et bientôt ils vont avoir la majorité absolue. Et les frères Janine m'avaient dit « Oh, méfie-toi, les Américains ne laisseront jamais passer ça ». Et malheureusement, il avait raison, puisque peu de temps après... Et donc à ce moment-là, il y a justement l'équipe Payoun. Cette chance, ils étaient en France, en tournée en France, et donc ils sont restés en France après, quoi. Et ma femme avait assisté, elle était à des journées syndicales CGT à Paris, et il y avait un meeting de soutien, ils avaient donné un spectacle pour les aider à démarrer en France.
Et puis il y a, y a quand même des traces, il y a des organisations qui ont pris le nom de Pablo Neruda ou de Victor Jara, comme on dit nous en français, Victor Jara. Il y en a encore, il y a à Couéron, la bibliothèque municipale s'appelle Victor Jara, et puis... je crois que la grande salle du Sillon de Bretagne, du centre socio-culturel du Sillon de Bretagne, qui en fait a ouvert à ce moment-là, il me semble me souvenir qu'elle a aussi pris le nom de Pablo Neruda. Donc il y avait toute une ambiance autour de l'unité populaire et puis ensuite du coup d'État.
Merci à tous de nous accompagner aujourd'hui.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Après l'écoute d'un ancien magazine de Michel de 2013, on a entendu là une chanson bien connue, je crois, en Amérique latine et ailleurs. Rachel ?
Oui, Joséphine, on a écouté Gracias a la vida, Merci à la vie, chantée la par Violeta Parra. C'est une chanson qui est entrée dans le cœur de beaucoup pour rester. Composée et enregistrée à l'origine par elle-même Violeta Parra, cette chanson fut reprise par de nombreux artistes dont John Baez, Mercedes Sosa entre autres. Cette chanson est devenue une référence non seulement pour l'Amérique latine, mais pour le monde entier.